10h01 minutes. Salut, bon matin et bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1. Mon nom c'est Marceau, je t'accompagne jusqu'à 14h en compagnie d'Audrey Pinchot pour la première partie qui s'appelle l'Open Mic. Salut!
Hola!
Tu passais une belle soirée hier à l'atelier sur la Grande Allée, c'était le fun, rencontrer les gens qui étaient présents, rencontrer deux auditeurs qui sont venus me voir.
Arrête donc!
Oui, pour dire « Hey, on est venu voir de quoi vous aviez de l'air en personne ». Là, j'ai senti comme quand il m'a regardé, il y a un peu de déception.
C'est souvent ça. Hein,
il a regardé mon linge. Il dit, finalement, tu mens pas.
C'est une même petite année, le gars.
Si t'étais au Centre-Ville de Québec, je pourrais te pitcher de la monnaie. Là.
T'avais fait un petit effort. Quand
j'avais
même
mis une chemise.
Oh, oui, t'avais fait un effort.
Ma chemise de bûcheron.
C'est celle que tu sors tout le temps, on dirait, quand il y a des événements.
Oui, 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 c'est la seule que j'ai. Là. J'en ai une noire. Pour être sexy, j'en ai une noire. Puis là, hier, pour être pas tant sexy, puis d'avoir l'air d'un homme des cavernes,
passable.
J'ai sorti ma chemise de bûcheron.
T'as
T'es-tu
bien
de même, toi? T'as-tu tout le temps une chemise, un gilet?
J'ai tout le temps un kit préférable, effectivement, quand, mettons, il y a des sorties. J'ai des kits sauvetage, que j'appelle. Fait que si vraiment je trouve rien à mettre, je me redirige tout le temps vers la même chose.
C'est ça.
Puis là, c'est ce que j'ai fait hier aussi.
C'est là que tu vois, quand tu t'habilles là, pour l'occasion, puis tu vois ton conjoint, ta conjointe, puis là, tu regardes, c'est là que tu vois toute la déception.
C'est vraiment le même que tu vas sortir. Je la sers à mon chum de temps en temps.
Non, mais moi, c'est tout le temps ça. À chaque fois, je ressors les mêmes chemises. Mais on est de même, nous autres, les gars. C'est notre personnalité qui est importante. C'est pas ce qu'on a de l'air.
Ouais, mais des fois, c'est important, le petit décorum, tu sais, être propre.
Être propre.
Vous nous rendez fiers dans ce temps-là. C'est, moi, j'habille mon chum. C'est la décision que j'ai prise dans les dernières années. Il veut s'attacher à ses vieilles bobettes et ses vieilles chemises. Je vais en acheter des nouvelles.
C'est-tu ton cellulaire qui a vibré ou ton WeVibe?
Ça a vibré fort, hein?
Oui.
J'ai oublié de...
C'est ton cellulaire, hein?
Oui.
Tu me disais, il y a quelqu'un qui a une manette quelque part qui se fait plaisir?
J'ai rien traîné sur moi, promis.
Fait que c'était le fun. Un mardi soir à l'atelier, je pensais pas qu'il y avait autant de monde. Il y avait du monde sur les trois paliers. Puis de notre côté, on a eu la chance de rencontrer le bonhomme carnaval.
Oui!
Il n'y avait pas grand-place pour passer. Là.
Non, c'était serré. Il y a sa sécurité avec lui constamment. Hein? Ça me fascine toujours ça.
Ben, ils ont...
Les deux gars qui le suivent.
À grosseur qu'il y a, ils n'ont pas le choix.
Ben oui.
Moi, j'ai eu la chance de rencontrer trois personnes qui ont personnifié le carnaval de Québec, dont un de mes anciens collègues, un gars que
c'est toujours la même personne.
Un gars que je reçois une fois de temps en temps comme collaborateur dans Marceau Soir. Puis un autre que je connais de nom qui est dans le milieu des affaires.
Je veux pas savoir c'est qui.
C'est les trois bonhommes carnaval que j'ai rencontrés. Puis ils m'ont tous raconté à quel point c'est vraiment trippant. Mais parfois, dans la foule, quand t'es là de longues minutes, c'est très éreintant parce que le kit est un peu...
étouffant?
Il est lourd.
Oui.
Tu sais, il est
lourd. Tu vas te sentir pris là-dedans.
Puis tu
là.
Vois pas super bien, ce qui fait en sorte que quand t'es dans une foule, ben toi, faut que tu marches, faut pas que tu tombes, faut que tu danses et tout ça. Fait que c'est pour ça qu'il y a tout le temps des gens qui font un genre de cordon de sécurité. Pas tant parce qu'ils ont, ils ont peur que les gens s'attaquent au bonhomme carnaval. Là. C'est juste qu'ils ont peur que le bonhomme carnaval s'en fâche.
Fait que tu donnes un peu l'espace de circuler.
Ils voient rien. C'est un genre de, ce qu'ils m'ont expliqué.
Mais c'est sa bouche.
C'est ça. C'est un genre de
filet.
De petit carré filet. Puis il voit absolument rien.
Ouais.
Puis lui, quand il tourne la tête, exemple, à droite.
Tu fais un salut, il faut pas qu'il accroche quelqu'un, là, tu sais.
Ouais, mais la tête en haut, elle tourne pas.
Non, c'est ça.
Fait qu'il peut pas se tourner la tête à droite. Fait qu'il faut qu'il tourne ses épaules en même temps. Ça a l'air, c'est hyper complexe. Puis il y a un petit micro. Je pense que c'est un ou deux micros qui sont à chaque côté de sa bouche pour transformer sa voix pour qu'il ait à peu près toute la même voix.
Ah, c'est intelligent, ça, quand même.
Ah ouais, c'est ça. Puis, tu sais, il réalise là, quand même des bonnes prouesses. Là. Il fait le salut nazi, là.
Oui, on l'a tous vu avec la patte en l'air.
Oui, je sais pas si le maire marchand va sortir à un moment donné pour canceller le bonhomme carnaval. Quoi?
Tu sais que j'ai hâte d'en parler. Hein? Il vient nous voir dans 10 jours exactement. Dans
10 jours?
J'ai pris une note. Je sais pas qu'est-ce qui l'a poussé à réagir de façon aussi intense, rapide. Je sais pas si c'est parce qu'il voulait être sûr de pas manquer sa shot de réagir pour pas se le faire reprocher. J'ai vu, c'est la seule chose d'actualité que j'ai vue la semaine passée pendant mes vacances.
Ah ouais.
Quand je suis revenue en avion, j'ai ouvert Facebook, là, puis la première chose que j'ai vue, c'est la vidéo du conseil municipal.
Nous autres, on en a parlé amplement. Là.
Ah, j'en doute pas.
Mais je suis persuadé. Le maire est un homme extrêmement brillant. Là. T'sais, quoi que je puisse en penser là, au niveau de la politique des fois, puis ses prises de décision,
bon
le fait qu'il soit borné, tout ça, je trouve que c'est un gars qui est relativement très brillant. Puis il est pas assez cave pour penser que c'était vraiment un signe nazi. Tu comprends?
Oui, je suis d'accord avec toi. Non, je comprends ce que tu veux
dire. Par contre, pour envoyer chier une citoyenne qui le fait chier, pour essayer de ne pas répondre à une question qui peut le faire chier, il est capable de mettre quelque chose qui va faire en sorte que ça va être... Ça va bien passer.
Le contexte...
Toi, je te parle pas, tu viens de faire un signe que j'apprécie pas, ça ressemble à un signe nazi. Pis...
Ah, c'est une façon de l'interpréter, ouais.
Moi, c'est ce que je pense qu'il a fait. Ça se peut que je sois dans l'erreur, tu sais. Mes enfants me disent que je me trompe tout le temps, que j'ai jamais raison. Les femmes de ma vie qui sont passées dans ma vie...
T'es loin d'avoir terminé avec tes enfants qui te disent que t'as
pas
raison.
Ben, c'est ça. Fait, mais ça se peut que j'ai pas raison. Mais moi, j'ai l'impression qu'il a profité d'une situation pour se sauver d'une question ou pour passer un message à une citoyenne qui l'emmerdait foncièrement. On le saura probablement jamais, la vérité, dans tout ça. Puis peut-être que dans 10 ans, il assortira la vérité. Mais moi, j'ai l'impression que c'était ça. Il n'y a pas personne qui voyait un signe nazi,
moi, tu
à
vois,
part lui.
Comment je l'ai vu, puis là, encore une fois, moi, j'ai aucun contexte d'actualité. Là. J'étais complètement déconnectée. Mais quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit, OK, avec le contexte des élections, avec le contexte de l'arrivée de Trump fin janvier, puis bon, Elon Musk, puis les images qui se sont promenées sur les réseaux sociaux, moi, j'ai vraiment perçu qu'il est comme embarqué dans la vague de gens outrés. Comprends-tu ce que je veux dire? Ça s'est tellement promené, ces réseaux sociaux, ça a tellement fait réagir, ça a tellement mis le monde en tabarnouche que j'ai comme l'impression qu'il est rentré dans le monde outré super rapidement. Tu sais, je vais pas manquer ma chance de réagir. Genre, comprends-tu ce que je veux dire? Mm-hmm. C'était fait très et trop rapidement, là. Mais je l'ai comme senti de même. Comme s'il fallait qu'il soit outré, lui aussi, puis qu'il déchire sa chemise à pas grand-chose, là. C'est comme ça que je l'ai senti. Ouais. Mais j'avais pas de contexte.
Moi, je pense qu'il vaut plus que ça.
Ah, assurément. J'ai hâte de poser la question.
La réponse est déjà préparée.
Elle est formulée, c'est sûr. Mais non, mais tu sais, des fois, tu peux pousser un peu, là. On a quand même une belle relation avec le maire marchand. J'ai hâte de voir.
Oui, c'est ça. Hey, j'ai plein de choses à te raconter. Je commence par quoi? OK, je vais commencer par ça, parce que je trouve que t'es une personne qui a une bonne oreille.
Ah.
Je te vois aller des fois avec tes amis ou encore avec, comment il s'appelle, le gars qui est tout le temps désespéré, là, qui ressemble un peu à ton petit frère, Maxime.
Max, oui, ouais. Larouche.
T'es tout le temps là pour écouter les gens qui sont autour de toi. Puis si on avait à déterminer qui était Audrey Pinchot, puis on me demandait c'était quoi qui détermine Audrey Pinchot, c'est l'écoute. C'est une fille qui écoute beaucoup les autres. Je t'ai peut-être trouvé une job. Mettons que ça ne marche pas à radio.
Oh, ouais, ouais,
il y aura toujours la possibilité pour toi, avec tout ce qu'on sait de toi, d'aller travailler au 7e ciel. Mais mettons que ça ne marche pas pour toi à radio. Là,
oui.
Tu pourras aller vivre en Chine.
OK.
Parce qu'il y a des copines à louer, mais pas pour ce que tu penses. Pas des copines. Là,
pas des copines de soir.
Pas à 3h moins quart, mettons, à l'hôtel. Okay.
Des amis à louer, genre.
C'est des copines à louer pour avoir une oreille.
Arrête,
pour des gens qui ont besoin de jaser. Bon, on va se le dire, là, je pense pas que tu deviennes milliardaire avec ça parce que c'est 16$ de l'heure.
C'est pas payé cher.
Mais n'en demeure pas moins que pour quelqu'un qui est étudiant, exemple, qui veut pas nécessairement aller travailler dans un dépanneur, à ce prix-là, c'est à peu près ça, entre 16 et 20$ de l'heure, de ce que je comprends. Salaire minimum, peut-être un peu plus. Ça doit être cool. C'est une bonne alternative.
Fait que tu utilises tes skills sociales pour aller passer la soirée avec quelqu'un que tu connais pas puis l'écouter jaser de ses problèmes.
Puis il te paye. Fait que tu peux aller n'importe où, tu peux aller dans un restaurant, puis il va te payer 16$ de l'heure. Puis j'ai l'impression, tu sais quoi, avec l'individualisme qui prend de plus en plus de place au fil du temps, j'ai l'impression qu'on va développer ça ici aussi dans quelques années.
Et je trouve ça triste, Yann.
Parce que les psychiatres, ils ont de la job bien en masse.
Ben oui, puis on en manque.
Les psychologues, tant au privé qu'au public, sont vraiment dans le jus. Les éducatrices spécialisées sont vraiment dans le jus. Les travailleuses sociales sont vraiment dans le jus. Qu'est-ce qui reste? Il va rester la portion de « loue une amie pour t'écouter ».
Oui, puis sais-tu quoi? Je retire un peu ce que j'allais dire parce que je disais que ça faisait désespérer, mais en début de semaine, j'ai jasé dans le retour avec Véro du phénomène de l'intelligence artificielle qui serait plus empathique que l'humain en cas de problème. Puis c'est des statistiques qui étaient sorties sur le fait qu'on a pris un groupe d'environ 600 personnes sans leur dire que les réponses étaient fournies par l'intelligence artificielle ou par un humain. Puis chaque fois qu'on posait la question à ces gens-là, qui t'a le mieux servi d'empathie, mettons, c'était l'intelligence artificielle qui revenait. Puis moi, ça, c'est quelque chose qui me fait vraiment peur. Je préfère qu'on se paye un ami d'une soirée puis qu'on crée au moins un contact humain qui peut-être va rester que de livrer tes problèmes, mettons, à ton téléphone via une IA. Mais c'est juste que je trouve ça bizarre. Je serais mal à l'aise d'être payé puis « Hey, salut, ben je suis là, je t'écoute. »
Mais une travailleuse sociale, c'est quoi?
Oui, mais tu sais, moi, j'ai pas les études, tu comprends?
Oui, je sais, mais une travailleuse sociale, c'est quoi? C'est, elle t'écoute.
Oui, mais elle a des trucs.
Elle essaie d'établir un plan qui va faire en sorte que la problématique que tu peux avoir va se résoudre avec les choses que tu vas mettre en place.
Oui, mais c'est ça. Il y a quand même une science derrière. Il y a des trucs, il y a des choses qui ont été prouvées. Il y a des manières de fonctionner. Moi, tu me payes pour t'écouter. Et paye-moi pas. Là,
ma mère
c'est
adoptive,
juste besoin d'une oreille. Là.
Ma mère adoptive qui vient une fois de temps en temps ici à la station, qui est Paul Lévesque. Elle dit souvent, tu sais, quand un ami a des problèmes, là, puis tu sens qu'il faut que tu l'écoutes, ferme ta gueule.
Oui.
Ben ça, là, il y a un marché, là.
C'est capoté, pareil.
Parce qu'il y a plein d'amis que tu as autour de toi, à chaque fois que tu vas leur parler de ton problème, exemple, ils vont te parler de leur. Ah, moi aussi. Ah, moi aussi, regarde. Ah, moi aussi, ça m'est arrivé. Ou ils vont te donner des conseils, puis des fois...
ils sont non sollicités.
Ben, parce que des fois, tu veux juste un ami avec qui parler, mais tu sais très bien que lui, pour l'instant, ça va bien, mais sa vie, c'est un enfer. Là.
En fait, des fois, tu as juste besoin de quelqu'un qui va te laisser... T'sais... Écouter ta marde, écouter vider ton sac à marde. Mais je pense qu'il faut que tu sois disponible émotionnellement aussi. Là. Si tu fais cette job-là d'ami payé, il faut que tu aies le dos large puis que tu laisses ça glisser. Il ne faut pas que tu prennes les problèmes des autres personnels. Là.
Exact. Mais c'est ça. Paul dit, quand quelqu'un vient te voir, elle a besoin de parler, cette personne-là, ferme ta gueule.
Mm.
On a des amis qui ne ferment jamais leur trappe parce qu'ils vont comparer ta vie de misère que tu as là actuellement versus la leur. Puis ils vont te donner des conseils alors que tu regardes leur vie, puis il n'y a pas plus de ménage qui a été fait dans les dernières années. Là.
Je comprends.
C'est comme, c'est comme quelqu'un qui n'a jamais réussi en affaires, qui essaie de donner des conseils à un gars qui réussit bien en affaires, mais qui a certaines petites problématiques dans certains secteurs de son entreprise.
Ça, je pense que c'est juste des gens qui sont maladroits. Quand tu ne sais pas comment aider ou comment écouter, ou tu ne veux pas avoir l'air de t'en foutre. T'sais.
Juste ça, écoutez, Audrey. Écoute, j'avais une intervenante qui mentionnait qu'en 3 mois, elle avait obtenu une cinquantaine de clients.
C'est capoté, là. Juste à 16 piastres de l'heure, ça peut monter vraiment vite. Là.
Les sujets qui sont abordés, tu penses, c'est quoi?
Ben là, l'amour. C'est sûr que c'est des affaires de problèmes de couple ou des problèmes de dating, là. Ça doit retourner autour de ça, là.
Ouais, ensuite, y a-t-il d'autres choses?
D'argent?
Oui.
À part ça, des troubles d'amitié?
Oui.
De solitude?
C'est quoi, tu l'as lu ou ben...
Non, zéro pin-bar, jury craché sur ma tête.
Dans l'ordre, là, ce serait les relations amoureuses.
C'est toujours la grosse affaire, ça.
C'est surtout des filles qui ont besoin de jaser de ça.
Oh.
Le travail, la famille, les amitiés, les pressions sociales. En Chine, c'est très important, là, la pression sociale. Là. Puis là, je comprends qu'effectivement, il doit y avoir une part de marché qui touche les pressions sociales. Économique, c'est ce qui fait en sorte qu'ils ont besoin de jaser à quelqu'un, puis ils le payent 16 piastres de l'heure.
Ce que je trouve hot dans ce principe-là, puis là, c'est sûr que je comprends la petite job sur le side, là, mais si on avait créé un genre d'application comme ça au Québec, là, moi, j'aimerais ça une app où tu peux... Tu peux appeler ça louer ton ami comme eux autres, là, ami à louer, là, mais j'aimerais ça, moi, que tu puisses rencontrer du monde de façon amicale. Tu sais, on a Tinder, mais c'est pour dater éventuellement. T'es pas sur Tinder pour te faire des amis.
Dr. Love a des solutions pour toi dans les prochaines secondes.
Non, mais attends.
Oui, je dis.
Mettons, OK, que je vais en voyage, là. Je vais sortir du Québec, je vais en voyage. J'aimerais ça avoir une app où je peux trouver quelqu'un qui passe une soirée si, mettons, je décide de voyager tout seul. Tu sais, t'es-tu toi aussi un voyageur, puis on peut se retrouver puis passer du temps ensemble. Mais au Québec, je trouverais ça le fun.
Ouais.
Tu sais, je sais pas, moi, je déménage à Montréal demain matin, je connais personne. Mais d'avoir une app de même sur laquelle tu peux trouver quelqu'un dans les environs qui a le goût de passer une soirée, lui aussi, aller prendre un verre, puis tu peux juste créer des liens d'amitié sans plus.
Ouais, moi,
je trouverais ça cool.
J'aime mieux rencontrer des gens sur place à l'improviste, un peu comme quand tu es en voyage.
J'aime.
Puis là, tu jases un peu avec le monde parce qu'il y a quelque chose que vous avez en commun, vous riez de quelque chose, puis là, tu commences à jaser. Parce que c'est une application. Mettons que toi puis moi, je te souhaiterais pas de mal, mais mettons que toi puis moi, on est en couple.
Ouais.
OK. Ça fait-tu mal quand je t'en parle?
Bien, c'était inconfortable, mais
je me sentirais pas bien sachant que tu t'inscris sur ce type d'application-là en Europe parce que c'est des gens qui savent que les autres personnes qui voyagent sont seules. Fait qu'il pourrait peut-être y avoir des dangers, mais à l'improviste comme ça, quand tu te promènes, exemple, je sais pas, moi, tu t'en vas en Irlande, puis tu rencontres des gens dans les bars et tout ça, c'est à l'improviste, ils ont comme pas planifié quelque chose.
Non, t'as raison, ça, je comprends totalement.
Il y a pas de plan de fête, tu sais.
Oh, ouais, non, t'as vraiment un point là-dessus. Je pense vraiment que c'est au niveau des rencontres, si, mettons, tu changes de ville ou que tu connais personne, ou je trouverais ça le fun. Tu sais, je vois des posts, des fois, ou sur des groupes Facebook, des gens qui « Allô, je viens de déménager à Québec », j'ai aucun repère. Y a-t-il quelqu'un qui a le goût de montrer un peu la ville, aller prendre un café? Je trouve ça cool.
Oui, je vois ça sur des spotted, entre autres, Val-Bélair. Des nouvelles familles qui s'établissent à Val-Bélair, qui disent mon fils a 12 ans, il n'y a pas d'amis. Est-ce qu'il y a des amis dans le coin? Nous autres, à Val-Bélair, c'est surtout par les lettres là, qu'on se reconnaît. Là. T'habites où? Ah, d'un G, j'habite d'un C. Fait que, les spotted de Val-Bélair, il y a souvent de ce type de messages-là. Puis je trouve ça cool.
C'est mignon.
Puis là, je continue avec la fameuse job d'écouter les gens qui te rapportent 16$ en Chine, qui va arriver certainement au Québec là, dans les prochaines années. C'est pas juste sur place. Hein. Ça peut être aussi juste en ligne.
Ah, mon Dieu!
Tu peux chatter avec quelqu'un directement sur ton Messenger Facebook.
Ah, mais ça, je le ferai.
Puis la personne te paye.
Sans problème, là.
Parce que ça t'implique moins?
Je pense que c'est parce que j'ai plus le temps de réfléchir, mettons, à une réponse intelligente. Tu sais, quand t'es face à face, des fois, dépendamment du problème, c'est parce qu'on a tous des avis différents. Là, si moi, tu me parles de ton problème de couple, mais je trouve ça complètement en cave, ça va me paraître d'en face, tu comprends? Je serais peut-être pas d'une super bonne écoute en ce moment-là. Tandis qu'en ligne, je trouve que t'évites ce filtre-là. Je trouve que c'est plus accessible à tous. Parce qu'on est tous bons derrière notre clavier, on va se le dire. Là. Les skills sociales sont rendues sur Internet. Là. Fait que le fait que ce soit en ligne, on dirait que je trouve que c'est plus intéressant.
Ouais. Ben oui, puis ça t'engage peut-être un peu moins. Mettons que tu deviens dans une situation mal à l'aise où la personne est en train de transférer l'amour qu'elle avait pour son ex-conjoint sur toi. T'sais. Ce qui m'arrive souvent. Là,
oui,
ça,
on sait. Je trouve ça très désagréable. C'est difficile.
Non, mais je veux dire, par chat, si t'es sur Messenger, si t'es par texto, puis tu gagnes ta vie comme ça en écoutant les gens, tu peux te permettre de dire « Hey, ça a été un plaisir, je dois prendre la route. »
Oui, c'est ça. Tu peux te créer une excuse.
Tu peux te pousser.
On se reprend demain si tu veux.
Tandis qu'en personne, tu es supposé avoir une rencontre de 2 heures, puis après 45 minutes, tu fais quelque chose. Quoique, il y a des filles qui le font assez facilement.
En dating?
T'as-tu déjà fait ça?
Hey, sais-tu quoi? Il m'est arrivé une fois, puis le pire, c'est que ça s'est réglé éventuellement, là, mais j'avais rencontré quelqu'un du côté de Jonquière entre deux relations, puis je cherchais rien de sérieux parce que j'étais pas bien, là. J'étais encore bien accrochée à ma relation précédente. Puis cette personne-là étudiait pilote, puis moi, j'étais en ATM du côté de Jonquière.
Étudiait pilote.
Pour être pilote à Bagotville. Puis on se voyait ici et là dans les parties, puis à un moment donné... Non, c'était pas un militaire, il faisait vraiment son cours de pilote. Tu peux faire ton cours pour devenir pilote. Lui, il voulait faire ça dans la vie.
À Bagotville, je savais pas qu'il y avait une école de pilote.
Oui, puis c'est une des bonnes. Fait que lui était là, puis il venait de Montréal. Puis ma famille, moi, dans ce temps-là, habitait à Montréal. Fait qu'une fin de semaine, on s'était retrouvés. Puis avant d'aller au foufoune électrique, je me souviens, on est allé dans un restaurant. Mais moi, ça, c'est le genre de situation qui me met vraiment mal à l'aise. Être face à face avec quelqu'un que je connais pas beaucoup, puis de voir, tu comprends, être cute, là, puis bien manger, là, puis faire attention à ce que je commande, pas avoir l'air d'un porc. Puis j'haïs ça, le contexte de dating. C'est tellement pas moi. Puis je me souviens, je m'étais levée pour aller aux toilettes, puis je m'étais dit, ah, mon Dieu, ça fait tellement comme d'un film, j'avais appelé une de mes amies. Là, comment je me sors de là? Je veux pas nécessairement me sauver, là, mais je suis vraiment inconfortable. Fait qu'elle m'avait conseillé pour essayer de me calmer un peu parce que j'étais tellement anxieuse que tout ce que je faisais, c'était manger puis prendre une gorgée parce que je savais pas comment gérer la situation. Mais je me suis jamais sauvée, par exemple. Okay. Je trouve ça impoli.
Moi, dans la restauration, j'en ai vu souvent.
Ah, c'est impoli.
Deux cas où, un entre autres, on était sur... en fait, je travaillais sur le boulevard Laurier, puis on était sur la terrasse. Puis là, il y a un gars qui arrive. Visiblement, je le sens nerveux, mais je sais pas pourquoi. Il est quand même bien habillé, mais peut-être un peu trop weird, là. Tu sais, le genre de geek informatique.
OK, je vois l'image.
La chemise, là, tu sais, pas de cravate, mais...
Ouais, boutonné en haut, là.
Boutonné jusqu'en haut, puis t'as l'impression que ça tête devient plus grosse parce qu'elle est gorgée de sang. Hein. Mais je le sentais nerveux. Je disais, est-ce que je vous apporte un verre, quelque chose à boire en attendant? Non, merci. Puis je vais prendre un verre d'eau. Fait que là, il y a un verre d'eau devant lui. Puis 15 minutes plus tard, il y a une fille qui arrive, puis je me rends compte que les deux sont vraiment pas du même genre. Là.
Oh.
Tu sais, il y en a un qui était plus geek et informatique, l'autre était plus Lady Marianne, mettons.
Ah, OK.
Et là, je me suis dit, bon, il...
Ça fait trop pas.
C'est peut-être sa sœur. Puis la fille a commandé un verre de vin rosé, puis lui a commandé une bière sans alcool. Il n'y a rien qui marchait, là. Et je suis allé chercher les drinks. Je les ai amenés à la table. Puis elle a dit, les toilettes sont à quel endroit? Puis j'ai dit, les toilettes sont là-bas. Fait qu'elle a dit, très bien. Fait que moi, je sers les drinks, tout va bien, je m'en vais. Puis elle vient me voir où j'étais dans ma console, là. Puis elle me dit, je vais juste te payer les deux verres. Moi, je dois quitter rapidement. Puis le gars, il restait seul sur la terrasse pendant 40 minutes.
Oh non.
Jusqu'à temps qu'ils disent « Est-ce que la dame avec qui j'étais est encore aux toilettes? Je vais aller vérifier. » J'étais pas capable de dire qu'elle s'était poussée.
Oh mon Dieu, mon cœur!
J'ai fait semblant d'aller vérifier. Je dis « Malheureusement, elle semble pas être là. » Puis le gars a tout simplement quitté. Je dis « C'est offert par la maison. » Je voulais pas dire que c'est la fille qui avait payé les drinks puis qu'elle s'était poussée puis que j'étais au courant de ça. Fait que j'ai dit « C'est offert par la maison. Ça nous fait plaisir. » Puis le monsieur s'est poussé.
Hey!
J'avais trouvé ça vraiment...
Ah, c'est
triste.
Cruel. Ouais. Mais ça, là, on peut-tu dire que ça se dit? Ça doit être gênant, mais hey, excuse-moi, je réalise que ça marchera pas. Je suis mal à l'aise. Je pense qu'on va gâcher notre soirée. On est-tu mieux juste de laisser ça là? Puis ça se dit, me semble.
Puis l'autre affaire, plus weird, OK? C'était sur la banquette...
Hey, je file croche, Yann.
79. Sont deux, ils ont de l'air à passer une super de belle soirée, mais ils me racontent que c'est la première fois qu'ils se rencontrent, que c'est une date, puis se sont rencontrés par l'entremise d'amis et tout ça, puis ils ont de l'air à avoir bien du fun, puis il y a une gang de gars qui arrivent à banquette 80, 79, 80. Fait que là, les gars sont un peu sur le party aussi, fait que parle, jase. Là, tout d'un coup, les deux banquettes se jasent, puis tout le monde rit. Puis la fille qui était en date avec le gars...
Il peut partir avec une autre.
...a demandé le numéro de téléphone du gars en arrière.
Ah, c'est tellement cruel.
Puis le gars qui était en face a rien fait. Et moi, c'était à ce moment-là que je me serais levé puis j'aurais quitté le building.
Puis il est juste... Ah, il est resté.
Ah oui. Moi, je disais, bon, ben parfait. C'est le temps de prendre ma facture, là. C'est...
Hey, mais mon Dieu qu'on s'est pas vivre. Ça n'a pas de bon sens.
Ben, j'imagine qu'il y avait peut-être un peu d'alcool là-dedans.
Hey, mais quand même, essaie d'être subtil au pire, là. Mais attends que ta date soit pas là.
Ça doit être même subtil. Je veux dire, t'as une soirée de date avec quelqu'un, là. Excuse-moi, là. Tu réserves ta soirée de date avec cette personne-là. Ça marche pas, tu te pousses. C'est
ouais.
Tout.
Ou tu le dis. Tu peux le dire aussi, Yann. Ben, ça marche pas.
Ah, je le dis pas sur le fait. Mettons que ça m'arrive à moi, je le dis pas sur le fait. Je
tu passes ta soirée complète?
Ça va être un beau. Ben oui, voyons, ça peut être. Si ça clique pas sexuellement, puis ça clique pas mentalement, ça peut être une personne quand même intéressante, là. Fait que tu passes ta soirée, tu t'arranges pour passer un beau moment. Deux becs et joues, merci beaucoup. Puis plus tard, tu te dis, hey, écoute.
Je l'ai pas senti,
tout ça. Mais le soir, gâcher la soirée, je suis pas sûr.
Je trouve que c'est particulier parce que dans les deux situations là, que tu me partages, là, est-ce que ces gens-là réalisent à quel point tu brises l'estime de l'autre? Hey, se faire.
Sais-tu qu'est-ce que j'ai dit au gars en arrière, moi?
Hey!
J'ai dit, moi, là, une fille qui me fait ça d'en face, elle me rend service. Là. Elle me rend vraiment service parce que, imagine que tu te ramasses en couple avec quelqu'un comme ça, il n'y a pas de cellule.
Mais oui, non, ça, t'as raison.
Tu sais, mettons, tu t'attaches à cette fille-là pendant un mois et demi, puis tu te rends compte que finalement, elle dit qu'elle t'aime, mais elle voit d'autres gars.
Mais je te fais même l'inverse. Moi, je suis le gars à qui elle aurait demandé le numéro de téléphone de l'autre gang, là. J'y aurais pas donné, là. Ah ouais, ayant vu la fille, tu y aurais donné ton numéro. Non, mais c'est parce que si elle te fait ça dans la
face... Ça aurait pas été pour la vie, mais ça aurait probablement été pour la nuit.
Ah ouais, hein? Ah, c'est intéressant. Ah oui. Oh, non, je trouve ça... Moi, le délicatesse, c'est tellement déjà dur, puis ça prend tellement du courage.
Elle travaillait à Radio-Canada dans le temps.
Ah ouais, hein?
Oui.
C'est-tu la mère de tes enfants?
Non, mais non.
Imagine l'histoire a fini comme ça, finalement.
Finalement, c'était à moi qui a donné
finalement,
son numéro.
Finalement, exact. Je suis partie avec deux enfants plus tard.
La mère de mes enfants, je l'ai connue à la petite école, au collège. Puis quand on s'est daté, à la fin de la date, on est revenu au collège parce que c'était un dîner. J'avais pas une crise de scène dans ce temps-là.
puis, dans la vingtaine, j'imagine.
Oui, jeune vingtaine. Puis là, elle me dit, fait qu'on s'en va au pire.
Ah!
J'ai dit, ouais, au pire, on s'en
reverra. Au pire, on s'en reverra.
J'ai fait bon deux ça. Enfants, fait qu'elle ne pouvait plus se sauver.
Un pogné que toi, à vie.
Donc, tu me demandais, parce que, tu sais, c'était la thématique Saint-Valentin. La Saint-Valentin, c'est le 14.
Hein? Oui, c'est dans deux jours, les boys, en passant.
C'est le 14 au matin, 14 au soir, 14 au midi?
Ça peut être le matin et le soir. Tu sais, genre un petit mot d'amour le matin, puis le soir, tu soulignes et tu célèbres.
Il y avait un article que j'ai vu passer dans le journal qui parlait des trucs que vous pouvez faire pour rencontrer sans les applis de rencontre.
Oh mon Dieu!
Toi, tu fais partie de cette génération-là. Les applis, ça va super vite et super
ouais,
vite et super
c'est
vite.
C'est ce qui est le plus facile, effectivement.
Puis tu sais, quand je regarde Max, là, il me passe son téléphone, puis là, moi, je swipe pour lui à gauche, swipe pour lui à droite.
On sait jamais ce que ça donne.
Puis bien souvent... je fais le contraire de si c'était moi qui choisissais.
Oui, c'est ça.
Oui.
T'es vraiment sympathique.
Exact. Tu sais, il est peut-être célibataire à cause de moi depuis tout ce temps-là.
On sait pas.
Mais
quoi que ce soit pas grand critère. Là.
Mais moi, je me sentirais mal à l'aise d'aller sur les applications.
Moi aussi.
OK. Parce que j'ai pas été habitué à ça. Je t'en parlais hier. Nous autres, c'était les amis, des connaissances, des rencontres à l'improviste qu'on faisait dans les bars. On s'échangeait nos numéros de téléphone. On apprenait à se connaître. On était des amis modernes. Puis après ça, ça pouvait se transformer en amour. OK?
Ça semble sain, là, quand même.
Oui, puis il y a des gens qui nous écoutent qui ont connu leur conjointe au secondaire, au cégep, à l'université. Mais quand tu tombes célibataire à 40, 50, 60 ans, c'est compliqué d'y aller avec les applications. Malgré le fait que tu dois dire « Hey, c'est plus facile qu'avant », mais tu sais, quand tu y écris, puis tu sais qu'il y en a à peu près une quinzaine qui écrivent aussi, tu es comme un peu en compétition. Puis je salue un gars qui nous écoute, c'est un de mes auditeurs de longue date, qui a fait partie de ma vie pendant une couple d'années, qui m'a dit « Yann, quand tu tombes célibataire à 60 ans, là, ça m'est arrivé, c'est compliqué les femmes à 60 ans. » Et moi, de dire « Mais pourquoi c'est si compliqué que ça que les femmes à 60 ans? » Il dit « Yann, il faut que tu leur parles. »
Oui. Ben oui. Ben oui, mais t'as pas le choix, niaiseux.
Mais ça faisait 45 ans qu'il est en couple.
Oui, ben là.
Tu sais, c'est 45 ans qu'il est en couple, il tombe célibataire à 60 ans.
Puis 60 ans, là, les femmes savent ce qu'elles veulent en tabarnouche.
Tu sais, il y a des affaires en couple qui se disent plus. Tu sais, tu fais plus du slow talk tout le temps, là, en couple. Là. Non. Tu sais, quand ça fait 40 ans, tu te dis des choses importantes, puis tu te dis je t'aime, puis vous faites des activités.
C'est plus tranquille.
C'est un peu plus tranquille. Lui, il m'avait dit ça. Yann, c'est compliqué les femmes à 60 ans.
Faut que tu parles.
Faut que tu parles. Fait que ça peut être terrorisant pour lui, les applications. Mais regarde, l'article que je te parle dit participer à des événements.
C'est la base, je pense.
Tu sais, il y a des bars là, qui vont être thématiques là, pour la Saint-Valentin. Fait que vous pouvez y aller. Si vous allez dans un bar à la Saint-Valentin, il y a de fortes chances qu'il y ait des célibataires.
Oui, puis en plus, souvent, les bars vont faire des...
Puis en plus, à la Saint-Valentin, les célibataires femmes sont tristes. Fait que c'est plus facile. Il y a comme une porte d'ouverte.
Non. Yannick, non, c'est comme... tu peux pas dire des choses comme ça.
Eh bien, comme entre-ouverte, la porte.
Ben non, mais définitivement, les gens célibataires qui sont des bars tout seuls, on va se le dire, ils cherchent à remplir un trou en dedans. Ben un vide. Ils cherchent à remplir un vide. Un vide émotionnel.
Moi, j'irais pas jusque-là. Joignez un club en suivant vos intérêts.
Ah!
Fait que toi, là, t'aimes ça, le hiking? Le hiking?
Hiking.
Bon. Puis tu dis, j'aimerais ça rencontrer un gars qui trippe sur le hiking. Ben, t'as de fortes chances de rencontrer ce gars-là à l'intérieur de ce club-là. Sinon, rencontrer des gars qui ont des chums de gars qui trippent sur le hiking.
Mais ça, on néglige beaucoup ça, là. Ben que ce soit le golf, que ce soit un petit sport sur le site. Je pense à Pascal qui s'est inscrit à son... comment ça s'appelle, son affaire, là, le sport qu'elle fait le soir, là?
Ballon chasseur.
Ballon chasseur. Ouais. C'est un nom plus hot que ça, mais c'est du ballon chasseur.
C'est un nom plus hot. Là, ouais.
Mais c'est du ballon chasseur. Ouais. Mais tu sais, en t'inscrivant à ça, tu rencontres du monde, mine de rien, qui font pas partie nécessairement de ton cercle régulier.
Exact.
Fait que c'est vrai que c'est une bonne astuce.
Puis tu te fais des amitiés, puis ces gens-là peuvent te faire rencontrer d'autres personnes. Les cours, les ateliers ou encore des équipes sportives. Il y a des filles qui s'inscrivent au décaqué. Mix pour rencontrer des gars qui jouent au décaqué, qui n'ont pas de blond, puis ils se rencontrent dans leur équipe de décaqué, puis ils vont prendre
c'est
un
hot, verre. C'est hot, ça. C'est ben oui, très c'est hot.
Faire du bénévolat.
Ah, mais ça, tu vois, je suis d'accord avec ça aussi. C'est une façon douce de le faire. En plus, tu changes de milieu constamment. Tu rencontres plein de monde, là. Mettons qu'un été, tu fais du bénévolat pour le FEC. Après ça, tu t'en vas faire du bénévolat dans un centre de personnes âgées. Après ça, tu t'en vas à Boucher Généreuse. Tu rencontres toutes sortes de monde.
Rencontrer une milliardaire de 90 ans, ça a toujours été mon rêve depuis jeune.
Ben, je sais, c'est pour ça que je te le souligne.
Puis l'autre qui dit, c'est demander à vos amis. Fait que...
Ouais, mais demander à vos amis, c'est toujours touché, ça. Là.
Exactement.
C'est parce que, tu sais, on en parlait un peu hier, là, mais je sais pas si je te ferais confiance, Yann, pour me présenter quelqu'un si je tombais célibataire.
Moi, tu peux me faire confiance.
Mais c'est-tu des gens présentables?
Moi, j'ai l'œil.
Ah ouais?
Oui.
Ben l'œil, c'est correct.
Vraiment l'œil.
T'as sûrement l'œil, mais il faut que la personne ait quelque chose en dedans aussi.
Mes chums à moi n'ont jamais été déçus. Okay. Mais j'ai un de mes chums, par exemple, qui, lui, a fait confiance à une de ses amies de filles qui est à peu près comme toi, qui voyait comme l'âme intérieure de la personne.
OK.
Puis là, vous êtes deux belles âmes, je vais vous présenter. Puis finalement...
Ça n'a pas marché pantoute.
Non.
Pourquoi?
C'était... comment dirais-je... C'est...
Physiquement incompatible?
Mettons, tu sais, Mickey Mouse, là.
Ouais.
Mettons, le bonhomme carnaval ne peut pas rentrer dans Mickey Mouse.
Je comprends.
Ouais. Mais c'était deux belles âmes.
Je comprends. On suit. C'est intéressant.
Mais toi, tu serais ce genre-là.
Voir
les personnalités intérieures.
Oui, ouais. Ça oui, mais ouais. Je pense que je suis une bonne cupidon physique aussi.
Mon premier réflexe, moi, c'est d'aller voir ses ex. À quoi ils ressemblent?
Ah, c'est quand même un bon...
Ta mère, à quoi elle ressemble?
Ah, ça, c'est chiant.
Pourquoi?
Ben non, mais c'est parce que là, tu veux voir de quoi la personne va avoir quand elle va vieillir.
Je parle pour les gars.
Parce que si la mère est trop belle...
Non, 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 non. C'est les gars, je sais que t'aimeras pas entendre ça, mais je suis persuadé de ça, OK? Les gars vont se fier sur l'apparence de leur mère très souvent pour choisir leur conjointe. Si ta mère était blonde aux yeux bleus, il y a de fortes chances que toi, tu trouves dès la naissance que blonde aux yeux bleus, c'est vraiment joli. Fait que quand tu vas arriver au secondaire, sans nécessairement penser à ta mère, bien entendu, c'est genre, je vous entends, les pervers, là. Secondaire, cégep, tu vas comme toujours être attiré vers le blondinette.
Hey, c'est particulier, ça.
Ouais.
Moi, je pensais que tu te disais dans le sens...
Moi, ça a toujours été, tu sais, moi, ça a toujours été Amérique du Sud. Ça a toujours été Espagne. Ça a toujours été ça. Des filles qui ressemblaient à des filles qui venaient de là.
C'est un peu exotique, là.
Oui, mais tu sais, les cheveux très noirs, les yeux très, très, très foncés, le petit teint basané, ça a toujours été ça. Puis mes deux gars, je leur ai jamais parlé de ça, là. Je leur ai jamais parlé de mes goûts pour les filles. Puis mes deux gars m'ont donné les mêmes réponses. Les cheveux foncés noirs, les yeux le plus foncés possible. Nous autres, on a les yeux bleus, les trois, là. Puis c'était exactement leur mère qui décrivait.
C'est bien cute.
Puis
mais c'est l'exemple qu'ils ont aussi, c'est normal.
Le Doc Mayou, il y en a qui le trouvaient fucké, là. Mais je suis pas mal persuadé qu'il pourrait nous parler de ça. Il doit avoir une raison à ça.
Ben, j'imagine. Ben, à la base, pour moi, c'est le premier modèle que t'as, là. Parce que moi, je sais que, pas physiquement, mais en frais de valeur, de comportement, moi, je suis très proche de mon père, puis j'ai toujours été fière de la relation que j'avais avec, puis j'ai toujours admiré la personne qui était, puis je me disais que ça me prenait des valeurs comme ça auprès d'un conjoint.
Ouais, ouais, c'est ça.
Fait que j'ai comme l'impression qu'étant donné que c'est le premier exemple que t'as, ben tu recherches un peu ça malgré toi, là. Moi, tu vois, le Doc Mayou aurait sûrement dit que c'était un peu débile parce que là, c'était un manque à quelque part ou que... Moi, je crois moins à ça plus qu'au fait que, de façon très saine, c'est juste possible que c'est l'exemple que t'as eu.
Tes valeurs fondamentales sont transmises par tes parents.
Ben oui.
Tu vas essayer de chercher un partenaire qui a à peu près les mêmes valeurs fondamentales. Il doit y avoir quelque chose qui provient de là. Mais moi, ça a été la réponse de mes gars. J'ai fait une étude très scientifique, vous me connaissez.
Ben oui.
Puis je me suis rendu compte que les gars décrivaient exactement ce que leur mère pouvait ressembler. Là. Ils me parlaient des petites filles à l'école. Je disais, comment? Ben, les cheveux foncés, les yeux sont comment? Ben, brun.
Hey, c'est particulier.
Brun marde comme les tiens. les cheveux longs.
Mais je suis contente de savoir qu'il y a des gars qui aiment les yeux brun marde, parce que d'habitude, quand on demande à un gars les yeux, quelle couleur, c'est vert ou bleu, tu sais. Fait que les brun marde, on se sent souvent de côté.
Ouais. Mais moi, je trouve ça commun parce qu'on a les yeux bleus chez nous.
Oui, c'est ça.
Tu sais, fait
ça.
Que je trouve ça très, très commun. Fait que je vais aller tout le temps chercher l'autre côté.
C'est intéressant, ça.
Cela dit, vous avez de beaux yeux, madame.
Ah, c'est gentil, je vais le prendre. Ils sont fatigués un peu aujourd'hui.
Bob Sonnette, mettre du tape sur ma palette sur Boulevard. J'espère que mes patins sont minutes, vous êtes sur les ondes de Boulevard 101. Mon nom, c'est Yann Marceau. Audrey Pinchot est là pour nous accompagner. Jusqu'à 14h, on est là. Pascal CV s'en vient. C'est le grand retour de Denis Gravel aujourd'hui.
Oui, j'ai hâte de voir dans quel état, je t'avoue, parce que dans les derniers jours, il était complètement à terre.
Ouais.
Je ne sais pas si la voix va être présente, l'énergie, j'ai aucune idée. J'espère qu'il ne nous ramène pas de microbes, mettons. Là. Ah. Mais il va être là. Fait que le trio est officiellement de retour après deux semaines.
Parfait. Puis toi, tu couches où ce soir? Parce qu'il ne faut pas que tu sois absente demain.
Je couche où? J'ai...
40 centimètres.
Oui, je sais. J'ai Véro ou chez Max? Ça va dépendre.
Ça va dépendre. ça va dépendre d'eux. Parce qu'il y a un avertissement de tempête hivernale pour ce qui est d'aujourd'hui actuellement sur Québec. C'est un moins 18 avec le refroidissement éolien. C'est une température ressentie de moins 21. Aujourd'hui, c'est ensoleillé. Puis ça va rester comme ça jusqu'à ce soir. Par la suite, neige et poudrerie devraient se mêler à la danse. Accumulation de neige entre 2 et 4 cm. Des petites rafales à 50 km/h au courant de la nuit, minimum de moins 17. Et là, demain, ça s'en vient. 15 à 25 cm sur Québec avec des rafales entre 60 et 80 km/h, maximum de moins 9 degrés. Et vendredi, retour à la normale. Alternance soleil-nuage avec un maximum de moins 9 degrés.
Il semble y avoir un incident sur le pont présentement, pont Pierre-Laporte. Tantôt, il y a un texto qui nous disait que c'était une panne. Là. C'est directement direction sud à la fin du pont. Fait que quand vous allez chercher peut-être la 20, là, il semble y avoir un bon ralentissement de ce côté-là aussi. Le reste, ça roule évidemment. Quoi que ce soit, 88-971-1021, texto.
On est tombé sur un récit numérique sur le site de Radio-Canada, puis moi, j'aime bien lire ce type d'articles-là. C'est des articles de fond avec des témoignages, puis c'est très, très travaillé. Puis on parlait de violences sexuelles chez les hommes.
Oui.
Et on nous dit qu'au Canada, il y aurait un homme sur 10 qui aurait été victime d'agressions sexuelles durant son enfance et ou son adolescence. Puis on nous parle de l'histoire de ces gars-là dans cet article-là. Puis j'ai trouvé ça franchement intéressant, mais surtout sur les impacts. Tu sais, un jeune garçon qui va se faire abuser par une femme à 6, 7, 8 ans, il y en a plus qu'on pense.
Oui, puis ils n'en parleront jamais. Puis rendu dans la trentaine, quarantaine, tout d'un coup, il y a l'autre problème qui vient avec. Là, ça sort tout croche. C'est des gens qui n'ont pas pris des recours. C'est quand même triste. Puis tu l'as dit, mais c'est super bien fait. Je vous invite à aller lire, honnêtement. Là,
ouais.
Tu prends conscience d'à quel point il y a peut-être quelqu'un que tu connais de proche ou de loin qui a malheureusement vécu ça. Là.
Bien, c'est un gars sur 10.
Oui, c'est capoté.
C'est un gars sur 10. Puis bien honnêtement, moi, j'ai jamais entendu parler de ce type d'histoire-là. J'ai été chanceux, là. J'ai été tout le temps protégé durant mon enfance, ce qui fait en sorte que j'ai comme été... Bon, il y en a qui vont dire que j'ai viré croche un peu plus tard, mais tu sais, je suis quand même relativement correct. Là.
Ouais.
Mais quand j'entends parler de ce type d'histoire-là, je me dis, OK, dans mon école secondaire, il y avait des enfants qui étaient victimes d'abus sexuels de la part de femmes ou d'hommes, bien entendu. Mais c'est le genre de choses auxquelles on pensait pas. Puis en même temps, si moi, ça m'est arrivé, 6, 7, 8 ans, mettons, puis je raconte ça au secondaire, Audrey... À mes chums, ils vont dire... C'est quoi
t'es
qu'ils vont
chanceux,
dire? T'es chanceux.
T'es voyons. T'es...
Plains-toi pas. Ouais,
exact.
Mais les dommages psychologiques que ça peut créer chez ces enfants-là...
C'est énorme.
Surtout quand t'as 30, 40, 50 ans, quand ces gens-là deviennent des adultes.
Au niveau relationnel aussi.
Ça peut être énorme, ben oui.
Puis c'est plate à dire, mais je pense que le tabou que ça crée nous influence dans notre façon de penser. Moi, je me souviens, plus jeune adolescente aussi, quand on parlait d'agression sexuelle, il n'était jamais question d'un homme qui se serait fait agresser. C'était les femmes qui étaient toujours agressées. Mmh. Puis un homme agressé, c'est comme arrête, t'as sûrement aimé ça, tu sais. Puis jusqu'à ce que sur mon chemin au cégep, je croise un gars qui est devenu un ami qui, lui, a vécu des agressions sexuelles plus jeune, lui et son frère. Puis je me souviens qu'à entendre son histoire, j'avais réalisé à quel point, oh tabarnouche, OK, c'est quelque chose qui existe réellement, puis ça a vraiment des impacts. Fait que c'est un sujet qui est difficile à aborder. Puis 88-971-1021, en passant, si vous avez, malheureusement, des histoires, des témoignages ou des questions, quelque chose à dire, c'est de ça qu'on va jaser dans les prochains instants.
On a le plaisir de jaser avec Vincent Chouinard, qui est coordonnateur clinique pour l'organisme régional Autonomie, qui est un centre de ressources pour hommes. On va parler des hommes victimes d'abus sexuels, entre autres. Monsieur Chouinard, merci d'être là.
Ça fait plaisir, merci de l'invitation.
Est-ce que c'est votre première à la radio?
Non.
Non! Vous êtes un habitué?
Mais une première ici.
Et ici?
On se souvient toujours de notre première. Moi, je me dis que tu vas te rappeler de Boulevard.
Donc, bienvenue chez nous. Qu'est-ce qu'on fait exactement chez Autonomie? Vous rencontrez combien d'hommes à l'année? Comment ça fonctionne? Qui sont les gens qui s'occupent de l'organisme Autonomie?
Donc, Autonomie, on est là pour les hommes, peu importe, 18 ans et plus, en fait.
Ouais.
Et puis, on voit à peu près dans le service d'accueil, tout commence par un service d'accueil à Autonomie, on voit entre 600 à 700 hommes par année. Donc, c'est énorme. Là.
Ouais.
Le roulement d'hommes qu'on voit, c'est énorme. Et puis, ils viennent chercher du soutien en lien avec différentes difficultés. Souvent, la rupture conjugale est un gros moteur chez les hommes. Ils vont arriver. Puis tout ce qui peut en découler, là, juste un gars qui est triste que c'est fini, à un gars qui est pris avec la DPJ, un divorce qui est violence conjugale, etc. Là. Donc, il y a de tout. Là, mais souvent, la rupture est un moteur chez l'homme pour dire, là, j'en peux plus, puis j'ai besoin de soutien. Mais on fait justement l'agression sexuelle, c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui, l'estime de soi, la gestion des émotions. On a un petit peu d'hommes, des fois, qui sont judiciarisés pour certains comportements violents qu'on va soutenir, par DPJ.
Vincent, qui sont les gens qui nous accueillent? Je ne sais pas, moi, je prends un cas type, là, j'ai des difficultés psychologiques, là, je regarde... le psychologue, bon là j'appelle au public, ce psychologue c'est quoi, c'est presque un an et demi d'attente, un an, 6 mois, là je m'en vais au privé, ouais ça coûte cher, j'appelle un bon psychologue, 6, 7, 8 mois d'attente, quand je vais chez vous, est-ce qu'on m'accueille tout de suite, puis qui sont les gens qui m'accueillent, est-ce que c'est des gens qui sont formés?
Oui, absolument. Donc, ce n'est pas des bénévoles qui donnent les services, c'est des professionnels. Comme moi, j'ai un bac en psychologie, une maîtrise en travail social. Ça fait 13 ans là, que j'étais à autonomie, tout ça. Ouais. Donc, c'est tous des gens qui ont étudié dans ces domaines-là, psychologie, travail social, éducation spécialisée, des choses comme ça. Après ça, oui, il y a moyen que ça soit rapide parce qu'à autonomie, on a du sans rendez-vous. Donc, tout commence, comme je l'ai dit, par un service d'accueil pour évaluer la situation, analyser c'est quoi ton besoin, on peut-tu t'aider ou pas ici à autonomie quand un gars arrive. Alors, on a du mardi au jeudi un sans rendez-vous l'après-midi, là, à 1h45 pour être précis. Donc, un gars pourrait arriver se dire, OK, moi, comme tantôt, là, un gars qui nous écoute, il pourrait se présenter à 1h15 puis être vu là. Là.
Il y en a-t-il beaucoup qui viennent en sans rendez-vous?
Oui.
Ah ouais?
Oui. Des fois, même si ça déborde, on ne peut pas toutes les voir. Fait que c'est pour ça que des fois, on dit arriver tôt. Mais oui, des fois, il y a un jour qui peut avoir personne, puis d'autres, il y en a 6 qui se présentent, on peut juste en avoir 3, tu sais. Fait que c'est ça. Mais après ça, sinon, on a d'autres plages avec rendez-vous, où là, bon, il peut y avoir quelques semaines d'attente. Et là, on a ce premier rendez-vous-là, puis là, on va regarder avec le gars, OK, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut t'aider ou pas? Est-ce que ce que tu nous dresse comme problème, nous, on peut t'aider là-dedans ou pas. T'sais, si, par exemple, un gars a des gros problèmes de toxicomanie, ben nous, on va référer ailleurs.
Ouais.
Ou des gros problèmes de santé mentale ou d'anxiété qui veut guérir, ben là, c'est de la psychothérapie que ça prend. Nous, on ne fait pas de psychothérapie.
Mais juste ça, quand je me présente chez Autonomie, ça me rassure parce que, tu sais, souvent, on est isolé. Là, quand on est rendu là, dans notre tête, on est très, très isolé puis on a de la difficulté à parler de ça avec nos amis. Ben, d'aller chez Autonomie puis avoir quelqu'un qui va faire le tri, est-ce que, oui, on peut... Te prendre ou est-ce qu'on pourrait te conseiller? Puis si on te conseille, on te dit d'aller à telle plage. Je trouve que c'est rassurant pour le bonhomme qui arrive, qui est un peu désarmé. Des auditeurs qui nous écrivent, je prends le cas de Jonathan, change son nom, il dit « J'ai été abusé de 9 à 15 ans. J'ai jamais parlé de ça avant mes 45 ans. Ça a détruit mon enfance complètement. » Mon adolescence, ça a même causé mon divorce. Beaucoup d'anxiété par rapport à tout ça. Niveau psychologique, ça n'a pas de bon sens. Sexualité, c'est défaillant. Allant même jusqu'à une tentative de suicide. Les impacts sur une agression sexuelle, c'est ça, là.
Absolument.
C'est quoi l'ampleur par rapport justement à ces abus-là, ces violences sexuelles-là chez les hommes? Tu sais, on dit un homme sur 10 au Canada, mais si on veut parler peut-être du phénomène dans la capitale nationale, là, bon, j'imagine que c'est difficile d'avoir des chiffres, là, mais ça ressemble à quoi?
Mais c'est ça, même des fois, moi je voyais plus des 1 sur 6, là, je pense que ça dépend au Québec, tu sais, Canada, bon, tu sais, les sources. C'est difficile d'avoir des chiffres parce que pour ces chiffres-là viennent souvent des plaintes policières. Mais tu sais, les hommes qui vont aller se plaindre, que ce soit de la violence sexuelle ou de la violence conjugale, là, avant qu'un homme se rende au poste de police pour dire « je suis victime de ça », bonne chance, il y a toutes sortes d'obstacles.
C'est 1 sur 100 peut-être, 1 sur 200?
J'ai aucune idée, mais c'est vraiment pas gros. Là. Ouais. Nous-mêmes, tu sais, la majorité des gars que j'ai vus, moi, dans mon groupe que j'anime pour les hommes victimes d'agressions sexuelles dans l'enfance, la majorité n'ont jamais porté plainte. Là. Puis encore moins ceux qui ont été... agressé par des femmes, ouais, là, si il y a une différence.
Vous en avez combien par année des gars qui viennent pour violences sexuelles?
Bien, tu sais, qui vont finir dans mon groupe, il y a tout un processus, là, ouais. Tu sais, mais qui vont finir dans mon groupe, on a peut-être, bon, à peu près, c'est pas beaucoup, là, j'en fais un par année, donc, bon, c'est pas nécessairement très publicité non plus, c'est pas très connu, mais donc à peu près une dizaine par année, mais qui vont se présenter en service d'accueil ou qui vont nous nommer, qui ont été agressés sexuellement, mais qui viennent pas nécessairement pour travailler spécifiquement ça ou parler de ça, ben là, on est en trentaine, quarantaine, cinquantaine.
Ouais. Si je peux me permettre, parce que je pense...
Il y en a qui ne nous le disent pas, hein, ouais. En accueil. On le découvre dans un suivi. Ils viennent nous parler de quelque chose.
Ouais.
Puis là, tout d'un coup, le fameux classique de « il me reste une rencontre, puis là, je déballe quelque chose de super dramatique au thérapeute. » Là, mais là, « ah, oh, ouais, j'avais pas dit, mais c'est vrai, j'avais été agressé sexuellement. » Puis là, oh, mais là, c'est là que tu me le dis.
Ouais.
Mais c'est parce que c'est tellement tabou, les gars. « Ah, oh, c'est pas important, j'ai pas besoin de parler de ça. »
Il est prêt à se libérer, mais si je peux me permettre, pour ce qui est des services policiers, parce que les gens sont des fois un peu moins enclins à aller se plaindre parce qu'ils se disent, tu sais, ils vont me poser plein de questions. Puis c'était vrai dans le temps, là, tu sais, quand une fille allait se plaindre d'un gars, mettons, un homme d'affaires, ben, le flic qui était pas formé en psychologie, disait « Mais t'as-tu vraiment été agressé? T'étais-tu saoul? » Puis, tu sais, il faisait quasiment du victim shaming.
Ouais.
Aujourd'hui, ça n'existe pas. Les services de police, je vais parler pour le service de police de la Ville de Québec. Je sais que tous ceux qui vont recevoir les victimes, hommes comme femmes, ont eu des formations puis ont une base psychologique pour recevoir ces plaintes-là. Il n'y a plus de questions qui sont hyper intrusives et tout ça. T'sais, t'es-tu sûr? T'es-tu au courant de l'impact que tu vas avoir dans sa vie? Il va perdre. Il n'y a plus ce type de question-là. Ces gens-là sont dûment formés maintenant. Donc, si vous voulez le faire, vous le ferez quand vous voulez, mais si vous voulez le faire, les gens qui sont prêts à vous accueillir au service de police de la Ville de Québec sont formés pour ça sans jugement.
Est-ce que je peux me permettre, Vincent, de te demander, peut-être pour les gars qui nous écoutent, elle est où la limite? Agression sexuelle, c'est plus facile pour nous, on dirait, à imager. Là, j'imagine que la limite de l'inconfort qui est assez claire, mais quand on parle de violence conjugale chez l'homme, t'sais, j'ai le sentiment que l'homme va avoir tendance à peut-être banaliser des fois un geste qu'une femme peut poser en se disant comment elle était fâchée, c'est contextuel. C'est... Où est-ce qu'on peut dire que tu vis de la violence conjugale ou de l'abus sexuel?
Bien, tu sais, il y a les définitions légales, tout ce qui est tout comportement qui est non consenti. Donc, un consentement libre, éclairé, enthousiaste, répété, etc. Des fois, tu sais, dans nos groupes, on va dire aux gars, ça vous est-tu déjà arrivé, mettons, d'avoir une relation sexuelle avec votre conjointe? Ça vous tentait pas, mais était tellement insistante que vous avez fini par dire oui. Bon, bien ça, là, on s'approche de ça, là. Tu sais, il y a une espèce de harcèlement sexuel. Des fois, il y a des blondes qui vont mettre de la pression. Si tu le fais pas, je vais aller voir ailleurs. Si tu le fais pas, tatatati, tu sais. Tu sais, t'es plate. Des fois, il va y avoir du shaming aussi, là. Tu bandes plus, t'es rendu mou, tatatata. Pourquoi tu prends pas du Viagra? Tu sais, il y a des femmes qui peuvent être très méchantes, là, tu sais. Ou, mettons, une fille, il y a des gars qui se réveillent, qui sont en train d'être chevauchés, là. Mettons, monsieur, il y a une érection matinale, là, puis madame est en train de se gâter, là. Mais ça, c'est une agression sexuelle, tu sais. Même si lui décide de finir, entre guillemets, la job pour faire plaisir, puis qu'il va jusqu'à l'orgasme ou l'éjaculation, bien, c'est une agression sexuelle quand même. Mais tu sais, pensez-vous que ce gars-là, il va se lever, il va prendre son manteau, il va aller voir le SPVQ, dire « j'ai été agressé sexuellement par ma conjointe ce matin
». Chez Autonomie, ça se passe comment? Est-ce que c'est des rencontres... bon, au départ, de ce que je comprends, c'est une rencontre individuelle pour évaluer la personne. Ouais. Est-ce qu'il y a des rencontres aussi juste individuelles ou c'est en groupe? Là, tu l'as dit tout à l'heure, c'est un groupe par année à peu près?
Il y a les deux.
Ouais.
Donc, on a des services de groupe, des services individuels. En général, si on peut mettre un gars dans un groupe en lien avec le sujet qu'il veut aborder, on trouve ça plus efficace parce que là, tu as toute la gang de gars qui est là. C'est validant, c'est normalisant pour un gars de faire du groupe. Souvent, les gars sont un peu réticents. Ils disent « Ah non, je suis trop gêné, je ne vais pas faire du groupe. » Mais il faut un peu les travailler là, pour les convaincre que ça va être la bonne modalité d'aide pour eux. Mais des fois, bon, ça ne marche pas à cause des horaires. Ou mettons des gars qui travaillent de soir, nos groupes sont le soir normalement. Fait que des fois, on va offrir quand même de l'individuel.
Okay. Puis y a-t-il un certain réchauffement quand tu leur jases, le groupe est devant toi, tu sais que c'est exemple des victimes d'abus sexuels dans leur enfance ou dans leur adolescence. Y a-tu comme un genre de réchauffement, puis après ça, il y a des témoignages. C'est quoi les questions qui sont posées? Est-ce que les gars ont plus besoin de parler que d'entendre quelque chose? Comment ça fonctionne?
Bien, ça dépend du groupe. On a des groupes de type ouvert, par exemple, hommes en rupture ou gestion des situations difficiles, où est-ce que là, les gars, il n'y a pas de matériel prédéfini. Les gars arrivent avec leurs difficultés, on fait un petit tour de salle, voir qui va bien, qui va moins bien, puis là, on va se mettre à parler des sujets de l'heure là, que les gars amènent. Si un gars, mettons, c'est la première fois qu'il rentre dans ce groupe-là, il n'est pas obligé de parler, il va peut-être juste dire son nom, il dira « Ah, moi, ça va, mais je veux surtout vous écouter, tu sais, briser la glace comme ça. »
Fait que c'est le réchauffement, là.
Oh, oui, ça, il n'y a pas de problème. Puis après ça, les autres semaines, il va pouvoir prendre la place qu'il veut. Des fois, on est des groupes comme le groupe pour les hommes victimes d'agressions sexuelles, c'est plus, on a certains thèmes, on a comme un arc narratif qu'on va suivre de thèmes, puis de blocs d'informations qui sont logiques à suivre. Fait que c'est sûr que la première rencontre, on commence pas à raconter comment on s'est fait violer, là. On brise la glace, on fait un petit jeu d'introduction pour apprendre à se connaître, on met les règles du groupe, comment qu'on va fonctionner ensemble, puis c'est tout, là. T'sais, puis de toute façon, moi, avec ce groupe-là, comme c'est quand même touché, je fais ce qu'on appelle un pré-groupe. Donc, tous les gars, ils ont eu leur service d'accueil, mais après ça, moi, personnellement, je vais tous les rencontrer. Puis je vais leur dire qu'est-ce qu'on va voir exactement dans le groupe à chacune des 10 rencontres qu'on va faire ensemble. Je vais vérifier certaines choses avec eux, voir leur éligibilité. Donc, tu sais, je prépare déjà ce gars-là, puis après ça, la première rencontre, on y va tranquille au début, on apprend à se connaître. Puis c'est par la suite qu'on va plus aborder les sujets plus sensibles en lien avec l'agression. Les conséquences des agressions.
Est-ce que vous faites un genre d'accompagnement en justice, je vais le dire comme ça? Tu sais, je comprends qu'il y a beaucoup d'hommes dans la quarantaine qui viennent vous voir qui ont vécu des choses plus jeunes. Est-ce que vous les... vous les comment je pourrais dire ça, les inviter à prendre des actions pour se rendre en justice? Est-ce que vous les accompagnez à travers ça? Comment ça marche?
Donc, on n'a pas un accompagnement direct. Là, il faut contacter la police ou les avocats, des choses comme ça. Mais c'est sûr que dans le contexte du groupe, par exemple, ou en individuel, ça pourrait être fait. On va aborder le sujet avec le gars. T'sais, est-ce qu'il est encore possible de faire une plainte mm-hmm. ou pas? Est-ce que tu veux la faire ou pas? C'est quoi les avantages, les inconvénients pour toi de faire cette plainte-là? C'est quoi tes objectifs? Qu'est-ce que tu chercherais à faire? Puis c'est le fun parce que dans un groupe, c'est ça la force du groupe. Des fois, il y a des gars qui ont déjà porté plainte contre leur agresseur ou leur agresseuse. Et ils vont raconter leur expérience. D'autres ne peuvent plus le faire. Mettons que j'ai déjà eu des hommes de 70 ans là, qui venaient dans ce groupe-là, qui racontaient que c'est un vieux prêtre qui est mort, ça fait longtemps, là, qui l'agressait. Donc, lui, c'est plus possible de toute façon. Alors, tu sais, mais ils vont parler. Est-ce que c'est un regret? Est-ce qu'il aurait voulu le faire? Est-ce qu'il pourrait dévoiler ça peut-être à des membres à ses proches? Ou, fait qu'on parle de ça.
Est-ce que tu as l'impression, Vincent, juste le fait d'en parler à 70 ans que tu as été victime de ça, ça peut être une libération? Puis si oui, c'est quoi le processus psychologique qu'on peut avoir quand on se libère de cette façon-là?
Oui, je me rappelle, un des plus âgés que j'avais eu, il avait 76 ans. Il venait faire ce groupe-là à 76 ans. Mm-hmm. Puis quand même, ça prend tout un courage pour un homme de cette génération-là d'arriver, de faire ça. Puis lui, son but, il disait... Je veux pas, je pense qu'il voyait un peu la mort arriver tranquillement. À 76 ans, il t'en reste moins que t'en as fait. Là. Puis il disait, moi, je veux pas mourir avec ça sur le cœur. Il dit, moi, je veux que mes dernières années de vie, là, je sois libéré de ce fardeau-là. Fait que c'est pour ça que lui, il voulait faire ça.
Est-ce que tu peux vraiment être libéré? T'sais, est-ce qu'il y a des gars qui reviennent vous voir puis qui vous disent, hey, ça a changé ma vie puis j'ai l'impression que c'est une histoire qui m'appartient plus, ou vous sentez quand même que malgré le processus, t'es marqué à vie? Là?
Ben, je pense que oui, tu sais, tu peux t'en libérer, puis être bien, être fonctionnel, puis passer à d'autres choses, puis tourner la page. On n'oublie pas ça, OK? Ça va nous définir, tu sais. C'est comme si j'ai une blessure, peut-être qu'il faut toujours rester une cicatrice ou quelque chose, mais à un moment donné, ça fait plus mal. Elle est là, ça fait partie de moi, mais j'avance. Puis donc, absolument, il y a des moyens de... Mais justement, c'est si je reste tout seul dans mon coin à mettre le couvercle sur ma marmite puis à faire semblant que c'est jamais arrivé, c'est là que ça va aggraver puis que, que notre monde peut s'effondrer, là.
La majorité, c'est des femmes qui agressent ces hommes-là, ou vous retrouvez des hommes aussi qui
non, les statistiques au niveau des prévalences, donc c'est 70% 30%. Donc, mettons, sur 100% d'hommes que je vais avoir qui ont été agressés, 70% ont été agressés par un homme, 30% agressés par une femme. Là, je dis un, okay. Mais tu sais, fait que oui, fait que des fois, là, les gens ont l'impression que les femmes, là, c'est 1% ou 5% d'agresseuses. Non, non, c'est à peu près 30%. C'est les mêmes dans les recherches aux États-Unis ou ailleurs. C'est ça, c'est un 30% d'agresseuses.
Ça a-tu augmenté dans les années 2000, 2010, 2020, ou c'est juste parce que la médiatisation de ces dossiers-là ont comme explosé? Parce que quand toi et moi, on était jeunes, là, des jeunes enseignantes de 21 ans qui s'en prenaient à des enfants de 12, 13, 14 ans, ça n'existait pas, là. C'était des messieurs de 110 ans à moustache avec un chapeau puis des gros manteaux longs qui s'en prenaient à des enfants. Mais là, c'est des jeunes enseignantes qui se font prendre à avoir des contacts sexuels avec des enfants. J'ai l'impression que ça n'existait pas dans mon temps. C'est peut-être juste qu'on n'en parlait pas.
Oui, puis c'était banalisé, là, la situation. Mettons, un homme enseignant, moi, quand j'étais au secondaire, il y avait comme des filles de 16 ans qui sortaient comme avec des profs, c'était un peu caché. Tu sais, je veux dire, c'était... Maintenant, ça serait comme super malaisant, là, mais c'était comme un peu accepté à l'époque, mais c'était comme...
Oh, ouais.
Fait que là, maintenant, je veux dire... Je pense qu'on est beaucoup plus préoccupé par ça, tant mieux, là, puis qu'on visibilise beaucoup plus ça, on le voit plus comme de la violence aussi. Il faut se rappeler, hein, qu'avant, c'était avant les conservateurs de Harper, mais l'âge du consentement sexuel a diminué. Il était 16 ans, tu sais, puis il était 14 ans, puis je veux dire...
C'est ça, c'était entre 12 et 14.
C'est ça, c'était 14 ans, et les conservateurs l'ont augmenté à 16 ans.
16 ans. Mais faut pas qu'il y ait de palier. Exemple, si toi, t'as 16 ans, mais c'est ton patron au restaurant qui a 25 ans, bien là, il y a comme une...
Il y a une question de 5 ans aussi, de mémoire.
Oui, absolument, il y a des subtilités. Mais là, ça peut pas qu'il y ait un 5 ans. Si j'ai 16 ans, mais que la personne a 23 ans, c'est illégal. Ça marche pas.
Ça peut pas être ton patron, ça peut pas être ton enseignant.
C'est ça, une relation de confiance ou d'autorité, comme on dit.
Qu'est-ce qui est le plus difficile dans le fait de travailler avec des hommes d'abus sexuels? T'sais, on dirait que je me demande toujours, toi, tu as ton bac en psycho, tu as ta maîtrise en travail social, ce qui t'a comme dirigé à vouloir travailler avec ces gars-là?
Ben moi, ça, c'est quelque chose que... moi, dans ma vie personnelle, j'en ai vécu de l'intimidation, des choses à caractère sexuel aussi. Donc, c'est sûr que personnellement, je me sentais touché par ça, par être victime de quelque chose. Donc, j'ai toujours été très, très jeune. Moi, j'étais comme l'ami qui écoute ses amis de filles à l'école. Fait que, je pense que j'ai toujours été là-dedans. J'ai une mère qui a travaillé dans l'univers communautaire aussi. Ouais.
Fait que t'as toujours été une bonne oreille.
Ben c'est ça. Fait qu'il y a quelque chose d'une vocation là-dedans. Après ça, moi, je me suis trouvé presque par hasard à travailler à Autonomie il y a une douzaine d'années. Il y avait un poste qui ouvrait 7 heures par semaine dans Charlevoix. J'étais comme, bon, je voulais me trouver un job. J'étais fraîchement diplômé, j'avais besoin de quelque chose. Je suis embarqué là-dedans. Puis finalement, je suis resté depuis ce temps-là. Mais fait que moi, je trouve ça, je sais pas, c'est des situations qui me touchent, cette vulnérabilité-là, le courage que je trouve que les gars ont de venir en parler. Puis, tu sais, c'est tellement un beau groupe. Tu sais, le résultat, c'est sûr que ça a l'air drôle à dire. Là, c'est un beau groupe. C'est sûr que j'entends des choses horribles, tu sais, mais en même temps, je vois des choses tellement belles aussi à travers ça.
Il y a une solidarité, une confrérie.
Oui, oui. Puis les gars vont tellement mieux après aussi. Là. Mm. Moi, j'ai des gars qui m'ont dit là, j'aurais donc dû faire ça avant. J'ai tourné la page sur mes agressions sexuelles. Ça l'aide pour vrai. Là. Fait que ça, tu te sens tellement utile. Au lieu de faire quelque chose, je sais pas moi, d'aller faire un formulaire, quelque chose dans un bureau quelque part. C'est-à-dire, moi, j'ai des vrais êtres humains qui me disent... des fois, il y a des affaires super touchantes qui arrivent. Là. On a fait, dans le cadre de notre 40e, on avait une soirée justement plus à thème en lien avec les agressions sexuelles. Puis devant tout le monde, on est au Palais Montcalm. Il y a un gars qui a dit, hey, je voudrais juste témoigner que grâce à Vincent, il me nomme, j'étais encore en vie grâce à lui. Là. Il est en train de dire qu'il se serait suicidé si je n'avais pas été là. À un moment donné...
Ça, c'est la paye, ça.
Mais
c'est
là,
la vraie paye.
Tu dis, Colin, c'est
un impact significatif sur les gens.
C'est quelque chose.
Je ne fais pas ça pour rien.
Non, c'est ça. Fait que tu te sens utile. Là. C'est valorisant, ça, c'est certain. Là.
Aïe, on dirait que ça me vire à l'envers notre conversation ce matin.
Est-ce que quand on part chez Autonomie, là, est-ce qu'on repart avec un coffre d'outils psychologiques pour se préparer aux prochaines semaines, les prochains jours, les prochains mois, les prochaines années?
Bien, je dirais oui en général, parce que dans le fond, on va s'adapter aux besoins du gars.
Ouais.
Fait qu'on va lui donner ce dont il a besoin. T'sais, alors, souvent dans nos groupes plus à thème, il y en a qui a même des cahiers de participants avec des exercices, des informations, tout ça. Des fois, c'est moins structuré, mais le gars, à travers les relations avec les autres gars, va grandir comme personne.
Puis les gars, ils peuvent-tu revenir, mettons, l'année suivante?
Absolument.
Ah oui.
Absolument. Il y a des hommes... Non. Tu sais, quand un épisode de service est fini, si dans 2 ans, il a besoin de revenir, il nous fait confiance, il revient, bien, il revient. Là.
Ça doit être super bénéfique parce que, tu sais, quand tu as la chance d'avoir un suivi privé avec un psychologue, un psychiatre, peu importe, tu sais, oui, tu fais un gros travail personnel, mais j'ai le sentiment que l'effet groupe de sentir que tu n'es pas tout seul...
Sans jugement,
de sentir qu'il y a quelqu'un qui a vécu ça aussi, puis que tu peux voir les parcours des autres, ça doit être libérateur sur un temps.
Oui, puis notamment, en lien avec l'agression sexuelle, parce qu'on sait tous dans notre tête que oui, il y en a des gars qui se font agresser. On le sait dans notre tête, mais on ne va pas parler de ça à côté de la machine à café. « Ah, puis toi, ton viol quand tu étais jeune. » Je veux dire, ça n'arrive pas. Alors, de se retrouver dans un groupe où tous les gars qui sont là ont été agressés sexuellement, vont le raconter, on va en parler des conséquences. C'est comme ça, ça l'enlève complètement le tabou. Puis là, tout d'un coup, tu as des vrais êtres humains qui vont t'en parler, à qui tu peux poser des questions, à qui tu peux te comparer dans un sens positif, là, dire « OK, toi, tu as vécu ça comme ça. Hey, moi aussi, je me reconnais là-dedans. » Donc ça, c'est très, très thérapeutique en soi. C'est pour ça qu'on fait ça.
Je ne veux pas trop rentrer dans les détails pour identifier des gens, mais quand on parle des agresseurs, là, parce que dans ce cas-ci, avec l'article du journal de Radio-Canada, on parlait d'agresseurs femmes qui auraient agressé de jeunes enfants. Ça peut commencer à 7, 8, 9, 10, 11, 12 ans. Est-ce qu'on a le profil type de ces agresseurs-là? Est-ce que c'était des gardiennes, des gens de leur famille, leurs voisines, l'entourage?
Bien, c'est presque tout le temps uniquement des gens proches. Premièrement.
T'sais. Alors qu'on a toujours tendance à faire confiance aux gens qu'on connaît.
Mm-hmm. Ben c'est ça, le paradoxe. Là. Ouais. Mais moi, j'ai tout entendu. Des grands-mères, des mères, des mères d'accueil. Oui, moi, j'avais un homme que lui, il fallait qu'il se faisait garder par sa grand-mère, puis il devait y faire le décunilingus là, à chaque fois. Là.
Non, c'est raide.
Ben oui, c'est ça, tu sais, trigger warning, désolé. Mais tu sais, c'est ça, là. Donc, je veux dire, les mères, des grands-mères, des mères d'accueil, des grandes-sœurs. Des cousines, qui sont beaucoup plus vieilles, qui disent « je suis ta première blonde, mais là, il ne faut pas que tu le dises, sinon on ne va pas pouvoir se marier ensemble. » Tu sais, le petit gars qui a 11 ans, 10 ans,
il comprend ça,
il pense que c'est sa première blonde. Mmh. Fait que des tantes, vraiment tout l'entourage féminin des gardiennes, j'ai tout entendu là, en lien de frais de relation. Là.
OK. Donc, on répète, l'organisme Autonomie, c'est là pour aider les gars. Nous, c'est un organisme régional qu'on a ici à Québec. C'est situé à quel endroit? Est-ce qu'on a le droit de le dire? C'est où?
Bien, absolument. C'est sur la 3e avenue, dans Limoilou.
3e avenue, dans Limoilou. Comment on fait pour vous rejoindre? Parce que là, tu as parlé tout à l'heure d'une... pas une porte ouverte,
on laisse mais sans rendez-vous.
Une clinique sans rendez-vous. Ouais. Parce qu'on parlait tantôt, si on cherche de l'aide psychologique, les psychologues privés, bon, ça peut coûter cher si t'es pas assuré. Puis des fois, il y a une liste d'attente. Puis de l'autre côté, si tu veux passer au public, bonne chance. Tout ce qu'on a besoin, c'est de jaser. Fait que c'est dans le secteur Limoilou. On peut vous retrouver sur Internet?
Oui, absolument. Autonomie.org.
Autonomie, en passant, là, c'est y a un petit jeu de mots. Là. Ouais. C'est A-U-T-O-N-H-O-M-M-I-E. Il y a homme dedans, donc autonomie.org. Puis c'est pour tout type de problème chez l'homme. Là, on a vraiment parlé d'abus, de violences sexuelles, mais vous aidez de façon générale les hommes dans toutes sortes de problèmes là, de santé mentale, des problèmes de rupture, des
violences conjugales.
Ce qui est le fun, le site web est vraiment bien fait. Là. Vous êtes capable d'aller retrouver les types de services finalement, si jamais vous en sentez le besoin, mais je trouve que c'est franchement bien fait.
Vincent, ça a été un plaisir. On va certainement se reparler dans les prochaines semaines, peut-être les prochains mois. Je le souhaite du moins. Vincent Chouinard est coordonnateur clinique pour l'organisme régional Autonomie. Nous, on va faire une courte pause. Juste avant la pause, les amis, j'ai un cadeau pour vous autres. Steel Panther et Buck Cherry. Ça, c'est un de mes bands que j'aime bien. Buck Cherry présente la tournée Northern Exposure. Ça se passe au Théâtre du Capitole. C'est une super belle salle de spectacle en plus. C'est mercredi le 14 mai. Donc, ne manquez pas Steel Panther et Buck Cherry en spectacle ensemble. Restez à l'écoute de Boulevard 101 pour gagner votre paire de billets. Les billets sont en vente au théâtrecapitole.com dès ce vendredi à Saint-Valentin. C'est un beau cadeau, ça?
Non? C'est vrai que c'est un beau cadeau. Ben, c'est un très beau cadeau.
C'est juste que c'est des groupes qui s'adressent un peu plus aux gars qu'aux filles.
Attention! Si tu savais, il y a quand même une bonne clientèle féminine.
Donc, Théâtre Capitole, dès ce vendredi, 10h pour les billets. J'ai une paire de billets à l'instant. Je vous fais entendre une toune de Buck Cherry. Bon, c'est moi qui l'ai choisie. Ça n'a pas été très difficile de la choisir. Dites-moi, c'est laquelle? Scratches all down my back to keep her on her own. Hey, you're crazy bitch, but you fuck so good. I'm on top of it when I dream. I'm doing you all night. Scratches all down my back to keep her on her own. 418-971-1021, 418-971-1021 par...
C'est des messages à passer, hier.
Par texto. Par texto. Dites-moi le titre de cette chanson-là, puis c'est valide pour une paire de billets. Bonne chance! Rage Against the Matin Show. Pas vous autres, moi j'ai failli faire un accident ce matin. Du soleil d'en face
ça a pas de bon sens.
Qui m'est apparu, puis j'avais pas fait chauffer mon véhicule. Moi, j'embarque dans mon véhicule, c'est fret. Même si j'ai un démarreur, on dirait que je pense jamais.
Ouais.
Puis je suis embarqué directement dans mon véhicule, puis ma fenêtre était encore givrée. Puis quand le soleil est apparu, je voyais plus rien.
Ben ouais.
J'ai freiné, mais au froid qu'il fait actuellement, la gomme est complètement gelée, là, ce qui fait en sorte que je me sentais comme sur une patinoire. Fait que je me suis stationné puis j'ai attendu que ça passe.
C'est oui. Ce que tu aurais dû faire chez vous,
ouais.
En fait.
Toi, t'es-tu planifié pour demain? Parce que c'est une grosse tempête de neige qui s'annonce sur Québec. Un genre de 45 cm annoncé dans les prochaines heures.
Puis sais-tu quoi, le pire, c'est que c'est ça. Je serais correct pour retourner à la maison, mais demain matin, pas pour revenir. Fait que là, j'ai un choix à faire. Si je retourne chez nous, ben je travaille pas demain, je pense. Ce qui est attirant.
Oui, on n'aurait pas dû en parler.
Je dors à Québec. Oui, c'est ça.
On aurait peut-être pas dû en parler. Puis
j'aurais pas le choix de dormir à Québec grâce à toi, Yann. Merci.
Parce que sinon, demain, si tu dors chez vous ce soir, demain, c'est dans tes plans de pas rentrer.
Ben là, tu sais, c'est parce que c'est dangereux, sa route, là.
Puis de rester avec bonhomme,
ben
puis de rester avec Tichum.
Absolument.
Bon.
Hey, faites du télétravail sans joke, si vous pouvez demain, ça va être lettre, là.
Ouais.
Ces routes, ça va être dégueu, là.
C'est sûr.
Mais toi, c'est parce que t'as un Jeep, t'es en hauteur, tu te sens en confiance.
Ouais,
pas tout le monde qui est bien dans son genre.
Je fais partie de la génération des fuckés qui aiment ça quand il y a des tempêtes de neige.
Ah, mais ça, je te comprends, je suis en même place que toi.
Vraiment ça, quand on était jeunes, 16, 17, 18 ans, quand il y avait des tempêtes de neige, on faisait par exprès pour sortir avec nos petits chars manuels, puis rester pris. Puis on faisait du avance-recul, avance-recul, avance-recul. Puis on aidait les autres à se déprendre. On tripait, on n'avait pas grand-chose à faire. On n'avait pas Internet.
Oui, c'est ça, vous aviez dehors.
On n'avait pas accès à des sites porno, nous autres, dans le temps. Fait qu'il fallait s'occuper autrement, c'est-à-dire qu'on allait déprendre des gens qui étaient pognés dans la tempête. Pour une troisième édition, les amis, l'événement caritatif le plus saisissant de l'année va avoir lieu le samedi 15 février. Donc, ça s'en vient, c'est en fin de semaine. Ça se passe de midi à 15h au village nordique du port de Québec. Venez encourager tous les participants qui vont sauter dans les eaux glacées du bassin Louise lors du défi de l'ours polaire. C'est quoi ça? C'est un événement caritatif qui est organisé par la course aux flambeaux des agents de la paix et qui va permettre de financer des programmes olympiques spéciaux Québec pour les athlètes ayant une déficience intellectuelle. Donc, pour plus d'informations, visitez le Facebook Défi de l'ours polaire 2025 édition Québec. On va peut-être se croiser là. Ça va dépendre de la température et comment je me sens.
C'est ça l'affaire.
Mais là, j'ai le festival de hockey Pee-wee.
Ah oui?
Puis j'ai ça de prévu pour ma fin de semaine au travers des games de hockey. Fait qu'on va faire un petit tri. Je te souhaite de passer une belle fin de journée. On se rejase vers les alentours de 14h.
On se rejase à 14h, non?
Avec Denis qui va être là.
Ah oui, c'est ça.
Dis avec Véro qui va être là. Ben, on va se croiser dans la porte.
Oui, absolument. On se croise tout le temps dans la porte.
Salut! Ça va du faux.
Salut, Yann.
Je m'en vais dans le bois. Pascal CV s'en vient. Denis aussi.